Le langage n'est pas un savoir, mais la condition de, trois petits points, la condition de possibilité, mettons, de tout savoir. Je dis oui et après. Est-ce que ça exclut mon problème du point de vue de l'hypothèse large? Est-ce que ça règle mon problème du point de vue de l'hypothèse large? Car du point de vue de l'hypothèse élargie, bon, je rêve. Condition, c'est comme finitude. Je veux dire, il y a beaucoup de sens à condition, tout comme il y a beaucoup de racines de la finitude. Si j'emploie l'expression raison suffisante, pour un peu comme un équivalent de condition en philosophie, je me rappelle immédiatement un grand texte de Schopenhauer qui s'intitule « De la quadruple racine de raison suffisante ». La quadruple racine. Bon, des conditions, il y en a beaucoup. J'admets très bien, en écoutant Comtesse, le langage est la condition de tout savoir. Je ne sais pas si j'en suis convaincu, mais c'est pas mon avis. Mais je comprends ce que ça veut dire. En revanche, je ne comprendrais pas si on me dit condition de possibilité épuise tous les sens du mot condition. Si je reprends la liste des ratios, par exemple chez Schopenhauer, je vois qu'il y a une ratio dite en latin cognoscendi, une raison de connaissance, une condition de connaissance. C'est pas la même chose, mais mettons une condition de savoir. Mais il y a aussi une ratio fieri, une condition de devenir. Il y a aussi une condition d'agendi, une condition de faire. À ce niveau, je retrouve mon problème. Je peux consentir à Comtesse tout ce qu'il veut sur un privilège du langage. Je dis, ou un destin singulier du langage. Je dis juste, ça n'exclut pas mes doutes sur la nécessité, pas mes doutes, au contraire, mes élans vers une hypothèse élargie. Car, s'il est vrai que le langage est ou peut être condition de possibilité de tout savoir. Est-ce que la vie, car le savoir n'est pas que dit et parlé, est-ce que la vie n'est pas ratio fieri de tout savoir? Et est-ce que le travail n'est pas condition ratio agène de tout savoir? Si bien que dans la mesure où il y aurait une triple racine de la condition, je pourrais dire des deux autres puissances, vie et travail, exactement ce que Comtesse a réservé au langage, avec cette simple restriction, que bien entendu, ce n'est pas au même sens du mot condition. Donc, en sens, je ne dis pas du tout que, encore une fois, comprenez, je ne suis pas en train de dire c'est moi qui ai raison. Je dis, je vois la possibilité de maintenir une hypothèse élargie et je vois des raisons qui feraient une espèce de nécessité de la maintenir. Troisième remarque, ou quatrième, je ne sais plus, avec grande qui confirme la précédente. Et là, ça touche à ce que j'appelle une des différences essentielles entre la lecture de Foucault chez Comtesse et chez moi. Comtesse a repris avec une grande exactitude à plusieurs reprises, et on a fait même à un moment très brillant de son intervention, une espèce de litanie. Parler n'est pas voir. Parler n'est pas voir. Et chaque fois, il a montré en quoi parler n'était pas voir. Mais on voit bien comment en douce, enfin en douce, j'ai peur de dire en douce, il ne faisait rien en douce. On voit très bien, moi je voyais en tout cas très bien, comment à chaque fois, c'était une manière d'expulser le voir. Il disait parler n'est pas voir, par exemple, c'est lire. Très juste, c'est très intéressant ça. Mais à chaque fois, c'était une manière de surdéterminer le parler. Quant à la puissance de voir, il n'y a reconnu, ni à l'écouter, il n'y a reconnu aucun domaine et aucune force particulière. Moi, depuis le début, je crois qu'on peut très bien lire Foucault sous cette forme. Depuis le début, et ça a été mon début de ces séances sur Foucault, ça a été proposé de parler, ne pas voir, une toute autre interprétation. A remis radicalement en question, c'est tout ce qu'on a fait, c'est toute son interprétation du premier trimestre, et ça, je n'y vois strictement aucun inconvénient. Je vous ai toujours dit, si vous préférez une autre lecture, prenez-la surtout. Mais je crois que dans tout ceci, enfin au niveau de ce troisième point, la véritable différence entre ma lecture et celle de Comtesse, c'était sur que veut dire parler n'est pas voir. Moi, à mon avis, je dirais, mais là ce serait déjà trop me donner raison, Comtesse a donné de parler n'est pas voir une interprétation qui convient beaucoup plus à Blanchot qu'elle ne convient à Foucault. Mais j'en suis pas sûr. Il se peut que, en tout cas, il a donné une interprétation très blanchotte de parler n'est pas voir. Moi, je crois à l'irréductibilité du voir chez lui. Donc, en sens, ça me confirme lorsque je me dis non. Non, le langage n'a pas de destin singulier. Parce que il n'a plutôt tout à un destin singulier. Le langage n'a de destin singulier que parce que voir a un destin singulier. Autre point, alors là, ça a été le dernier point, à mon avis, mais complexe. Complexe parce que là, j'étais parfois troublé gêné, bien que Comtesse soit très bien retombé sur ses pieds, si j'ose dire. La vraie raison du primat, nous a dit Comtesse, en gros, c'est ceci. C'est que non seulement il faut dire que l'espace du langage est le seul à être condition, encore une fois, je viens de dire, ça ne paraît pas évident, ça, que l'espace du langage soit le seul à être condition. Tout dépend du sens condition. Mais il allait plus loin dans son dernier point, qui a été le point le plus long de son intervention. Dans le point le plus long de son intervention, il nous a dit non seulement l'espace du langage est le plus long, et le seul qui soit condition, mais s'il a ce privilège, c'est parce qu'il est le seul à être en rapport avec le dehors, avec ce que Foucault appelle le dehors, cette espèce de puissance qu'on n'a pas encore vue, qu'on a abordée, dont on n'a pas encore bien cherché à quoi elle, mais que l'on sent que, je lui dis, et la Comtesse serait tout à fait d'accord, je suppose, le dehors n'a rien à voir avec le monde extérieur. C'est une énième puissance. Eh bien, Comtesse nous dit, c'est bien l'espace du langage, ou c'est bien le langage dans sa puissance, qui constitue l'espace du dehors. En d'autres termes, c'est par là que passe le véritable affrontement avec le dehors. Ou c'est là le lieu privilégié avec le dehors. Et là, je comprends ce que dit Comtesse. À nouveau, maîtresse en vertu de mes remarques précédentes, je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi dire cela. Je ne vois pas pourquoi la vie. Je recommence. Ne tend pas un espace qui soit tout entier vectorisé vers et sur un rapport avec le dehors. Je ne vois pas pourquoi il n'y a pas un dehors de la vie autant qu'un dehors du langage. De ce côté-là, comme disait la comtesse, il serait une vie du dehors, de même qu'un langage du dehors. Ce serait peut-être à repousser avec quand on arrivera à cette notion de dehors comme perdant puissance. Mais enfin, ça ne paraît pas du tout évident. Surtout que là-dessus, à force de vouloir montrer que le langage tissait cet espace du dehors et affrontait le dehors dans son espace, Comtesse a fait éclater le problème de la folie dont il peut penser à juste titre, ou à moins juste titre, qu'il parcourt toute l'œuvre de Foucault. Or, quand il nous a parlé de la folie, moi, ce qui m'a frappé quand même, c'est que il n'a pas cessé de provoquer, pour rendre compte de ce qu'il appelait lui-même cette explosion de la folie, c'est-à-dire cette raison par-delà toute raison, il n'a pas cessé d'invoquer la nature, la vie, la bête. Bien sûr, il s'est rattrapé. Tout ça, ça faisait partie du langage du dehors. Mais je recommence. Pourquoi dire cela? Ou pourquoi ne dire que cela? Pourquoi faire tout le temps comme si la vie, sous ses formes exacerbées, appartenait au langage du dehors? Sans affirmer en même temps que le langage du dehors appartient au plus profond de la vie. Sinon, pourquoi est-ce que Comtesse aurait eu besoin de parler d'une véritable explosion de la nature, etc. Il aura beau nous dire que tout cela est encore parole du dehors. Mais vous savez, je ne vois pas pourquoi considérer que le processus de la folie passe ou trouve dans le langage un destin singulier et ne trouve pas dans la vie et le travail un destin singulier. Je ne dis pas du tout. C'est-à-dire, tout dépend, là aussi j'en reviens et c'est presque ma réaction essentielle à ce qu'a dit Comtesse. Il ne veut qu'un sens pour un mot comme condition. Il ne veut qu'un sens pour un mot comme au-delà de toute condition. Mais les conditions sont multiples. Encore une fois, il y a une condition du travail, une condition de la vie autant qu'une condition du parler. Et il y a un au-delà de conditions aussi très très différent. Si vous prenez l'expérience la plus... Comtesse a été assez lyrique, très bien lyrique, donc je n'ai même plus besoin d'essayer de l'être et je ne saurais pas l'être. Si vous prenez... Ce que nous sentons, quelles que soient nos aventures individuelles, ce que nous sentons de la folie quand nous sentons qu'elle nous concerne, est-ce que vous ne voyez pas que ça concerne non seulement enfin, le langage en quelque sens que vous le preniez, même au sens de ce pouvoir profond qui nous traverse et dont parlait Comtesse, mais que la vie nous traverse non moins, et que il y a un vitalisme de la folie, non moins qu'il y a, comment dire, un langage de la folie, et qu'il y a un travail de la folie. Je veux dire, là je retourne dans les platitudes, à quoi reconnaissez-vous quelqu'un qui parle? Et à quoi reconnaissez-vous, parce que vous savez, la folie, moi si j'avais un seul reproche à faire à Comtesse, et c'est un reproche très modeste que je fais, c'est... Il y a encore quelque chose de plus beau que la folie, c'est celui qui s'en sort. Et c'est là qu'il y a la vie, le langage et le travail. Sinon, ce que la folie a à nous apprendre, c'est pas grand-chose. C'est quelque chose de très dérisoire. La grandeur, elle commence à partir du moment où vous en sortez. Et comment on s'en sort? Et comment ça se manifeste quand ça va pas? Et comment ça se manifeste quand ça va mieux? C'est évident que ça se manifeste déjà. Du dehors, des choses très plates, ça se manifeste d'une certaine manière de parler. Oui, ça c'est vrai. Vous tendez dans tout le langage, et alors là, vous tendez des vecteurs. Vous tendez des vecteurs. Vous voulez arriver à dehors du langage. Il se trouve que ça rate. Il se trouve que tous vos vecteurs craquent. Il se trouve que là, vous êtes aphasique, vous êtes bègue, vous êtes... rien ne passe. Les vecteurs deviennent en confiture, en sirop. Mais qu'est-ce qui se passe aussi? Quand ça se passe comme ça dans la puissance du langage, ben vous savez, hein, que ça se passe à côté. Vous essayez de fabriquer un objet. Vous essayez d'écrire une page. Comment voulez-vous distinguer l'être brut du travail et l'être brut du langage? Vous essayez de faire votre page. Est-ce que vous avez vu parfois une écriture schizophrénique? Quand je dis ça, je suppose que vous en avez vu. Si vous avez vu comment une page est bourrée, est-ce que vous avez vu la douleur, l'espèce de douleur que ça suppose, ça, cette espèce de bourrage, comme si on voulait faire entrer dans une boîte quelque chose. Et si le schizo, il prend un objet, s'il veut fabriquer quelque chose, un des plus beaux textes de Michaud, c'est la description d'une table fabriquée par un schizophrène. Le bourrage. On emploie bourrage pour indiquer quelque chose qui concerne le langage dans la schizophrénie, la page bourrée du schizophrène. Mais sa production est bourrée aussi. La table qui est bourrée, la table qui n'en finit pas, où il y a toujours un rajout sur un rajout, etc. Quelle douleur il y a dans ces espèces de rajout perpétuel. Et la vie, qu'est-ce que c'est que la vie, la folie? C'est pour ça que moi j'ai été très frappé que, je ne parle pas de tout ce que Comtesse a dit sur bête et devenir bête, puisque là c'est des trucs auxquels Félix Guattari et moi on a participé et tout. Mais pour moi, j'ai jamais saisi lorsqu'on a parlé, ce que Foucault ne fait pas dire. Quand on a parlé de devenir animaux qui traversaient la folie et la schizophrénie, on les rattachait fondamentalement, je crois, à une puissance de vie, qui était la vie dans la schizophrénie, et qui était quelque chose d'indissociable de la nature, de la vie, du langage. Je ne crois pas que... Alors, Comtesse a fait un rétablissement, moi, qui me paraît étonnant, parce qu'au moment où il était le plus lyrique, enfoncé dans explosion de la nature, écroulement de la vie, etc., il nous expliquait quand même que tout ça, ça passe par l'espace du langage. Je reprends toujours ma remarque. Oui, il a raison, ça passe par l'espace du langage, du point de vue, mettons, de la condition de possible. Mais ça passe par l'espace de la vie, du point de vue de la ratio, bien dit, de la condition de devenir. Et ça passe par l'espace du travail, du point de vue de la condition agendi, de la condition de faire. Or, le fou, vous savez, c'est pas quelqu'un qui parle, c'est pas quelqu'un qui poursuit une expérience avec la parole. C'est quelqu'un qui est jeté dans une expérience douloureuse relative à la vie, au travail et au langage. Alors, c'est au nom de ces remarques, je discute rien de ce qu'a dit Comtesse, qui m'a parlé d'une très haute qualité. C'est en fonction de ça que je dis, et ben voilà, vous avez maintenant les données sur deux hypothèses possibles, hein, à ce niveau des mots et des choses. Alors évidemment, d'une certaine manière, Comtesse, il a raison. Il a raison parce que c'est un fait que Foucault réserve au langage ce destin singulier. Dans ce texte, moi, si je voulais aussi, je ne chercherais pas à discuter de ce qu'a dit Comtesse. Si je cherchais à sauver mon hypothèse élargie, ce que je fais d'ailleurs, ce que j'essaie de faire, il faudrait que j'invoque d'autres textes. Et les textes que j'invoquerai, moi, qui ne font plus partie des mots et des choses, mais Comtesse aussi, c'est donner le droit de se servir abondamment de textes de l'histoire de la famille pour éclairer ce problème des mots et des choses. Moi, j'invoquerai tous les textes qui paraissent avoir été pas tellement remarqués chez Foucault, on en parlera après Pâques, et qui témoignent, il me semble, d'une espèce de vitalisme très profond. Et c'est pour ça que, moi, j'ai, à chaque occasion, j'ai souligné l'importance des textes sur Bichat, sur la vie et la mort chez Foucault. Parce que, par exemple, le grand texte sur Bichat qui se termine par « C'est un vitalisme, oui, mais un vitalisme sur fond de mortalisme. » ce que je vous ai raconté, ce que j'ai trouvé le besoin de vous raconter sur le livre de Bichat la dernière fois, nous mettait dans, si vous voulez, une région où la puissance de vie se confrontait à la mort d'une manière très réservée par rapport au langage. Ça ne passait plus par le langage, c'était plutôt l'inverse, c'était le langage qui passait par cette région-là. Mais donc, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, vous trouvez devant les deux hypothèses. Ce qui nous reste à faire, c'est, je crois, en finir avec mon hypothèse élargie pour retrouver l'accord unanime, puisque les deux hypothèses, au moins, ont à peu près le même résultat, à savoir le surgissement d'une nouvelle forme qui n'est plus ni Dieu ni l'homme. C'est ça qui nous reste à faire. Je le fais maintenant et puis on en finit, ou bien vous voulez un petit peu si vous avez
très très.
On finit ? On finit, on n'en parle plus. Oui, personne n'a quelque chose à dire. C'est compliqué. Enfin, j'aime bien parce que c'est compliqué et ça ne concerne pas, je veux dire, l'essentiel. C'est pas essentiel parce que même si on change un peu l'hypothèse restreinte, on pourrait s'arranger, peut-être Comtesse et moi. Je lui donnerai un peu de son hypothèse restreinte et je lui donnerai un peu de mon hypothèse élargie, mais il n'aime pas bien les compromis. Mais enfin, c'est pas grave. Alors voilà, oui. Bon, juste, hein, on médite, hein. Deux minutes de méditation. Réfléchis comme ça. Dans un silence, en silence, mais c'est tellement plus formidable le silence. Quand est-ce qu'on peut se taire? Il y avait un professeur d'économie politique au 19e siècle, non, au début du 20e. Il faisait des cours de plus en plus courts. Eh bien, il y a des silences de plus en plus longs. C'est formidable. On m'a dit que Lacan, j'ai jamais entendu Lacan. Si, je l'ai entendu, mais en province. On m'a dit que Lacan avait une espèce de silence énorme, entre deux phrases. C'est bien. Mais ça, il faut savoir le faire, il faut une technique. Non, je veux dire, tout est technique, c'est très difficile. C'est très difficile. c'est un exercice de silence avant les vacances. Mais vous voyez, c'est même tellement bizarre le silence qu'il faut que je parle quand même. Voilà, voilà, ce serait un beau problème, ça. Un beau problème de DEA. En quel sens parler est-il une agression à l'autre ? C'est une agression. Par exemple, les cas varient. Ben, si on me parle avant que j'ai pris du café le matin, c'est une agression. Mais là, une terrible agression. Quoi. C'est comme si on me flanquait une aiguille dans le cerveau. Quoi. Il y a des gens, au contraire, qui se lèvent en babillant. C'est formidable. Bon, évidemment. Quoi ?
Des enfants.
Des enfants, oui, il doit y avoir des enfants qui se lèvent silencieusement. Enfin, on peut arranger ça, pour te taper dessus. Ah non, il y a des natures. Hein. Un cours, ça marche pas, parce que c'est une violence. Une violence, un cours, ça doit être une violence pour celui qui parle. Et une violence pour ceux qui écoutent. Il n'y a pas de cours dans là. Je veux dire, ce serait tellement mieux de se taire. C'est pourquoi nous continuons. Bon, allez. Alors, l'hypothèse élargie, elle est donc toute simple, surtout que j'en ai dû. Voilà. Je voudrais vraiment vulgariser le surhomme. Et en effet, je crois que c'est une notion qui est grotesque, cette notion de surhomme. Si on n'ajoute pas. Mais le surhomme, c'est quelque chose de tout ça. Mais vraiment de tout. Bien plus, il y a une erreur à ne pas faire, c'est croire que le surhomme, c'est un splendide avènement qui fait que les vieux problèmes sont liquidés. Mais pas du tout. Il faut concevoir, là je force un peu les textes de Nietzsche, alors ça fait rien, comme Nietzsche on s'en occupe pas, on peut forcer un peu. Le surhomme, il a lui-même toute sa boue, tous ses, je ne sais pas quoi dire, toutes ses, tout son chien dent. Il ne faut pas croire que tout est beau, arrivé. Tout n'était pas beau sous la forme de Dieu. Tout n'était pas beau sous la forme de l'homme, mais tout n'est pas beau sous la forme du surhomme. Il ne faut pas croire que le surhomme, ça surgit avec les problèmes réglés. Notamment, tout l'âge de l'homme, il a à se débattre avec les restes de Dieu, ce que Nietzsche appelle le dernier pape. Et l'âge de l'homme est inséparable du dernier pape. C'est dire que c'est pas tellement réglé que ça. La lutte continue. Et il me semble, là il faudrait relire de très près, on verra, on aura peut-être le temps si on a fini avec tout pour attendre. Moi je crois bien que si on tient compte des textes de Nietzsche, le surhomme, il a affaire avec ce que Nietzsche appelle tantôt le ou tantôt les derniers hommes. Et que donc, sous chaque forme, il y a toujours une espèce d'agitation très considérable. Si bien que ça m'aide pour dire, mais vous savez, le surhomme, vous attendez pas à ce que ce soit prodigieux. C'est autre chose. C'est autre chose. Mais raison de plus pour essayer de dire ce que c'est. Et ben voilà. J'ai une première dimension du surhomme. On ne vient pas là-dessus, c'est-à-dire, j'appelle surhomme, c'est pas un mot que Foucault emploie souvent. Et quand il l'emploie, il le rapporte explicitement à Nietzsche, il ne le prend pas à son compte. Mais ce que Foucault prend bien à son compte, c'est une forme de l'avenir, qui ne serait plus ni Dieu ni l'homme. Donc, par commodité, et en vertu de la connaissance parfaite de Nietzsche par Foucault, je dis, pour aller plus vite, le surhomme. Eh bien, nous voyons une première force constituante du surhomme. C'est la force de rassemblement ou de l'être du langage lorsque la littérature décroche de la linguistique, au sens que Pontel vient de préciser. La littérature, dès lors, devient en effet une force réelle. Je ne reviens pas là-dessus. Et j'ajoute, alors, uniquement en fonction de mon hypothèse élargie, bon, supposons que, c'est à vous de juger, supposons que la vie soit capable d'un tel mouvement, rassemblement d'un être brut de la vie, en décrochage avec la biologie. C'est notre hypothèse élargie. Je dis bah oui. De même que la force rassemblée du langage saute dans la littérature, laquelle décroche de la linguistique, eh bien, la force de rassemblement de la vie saute de la biologie. Elle en décroche. Elle saute dans la biologie moléculaire. Vous me direz, c'est abstrait, la biologie moléculaire, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire avec le surhomme, alors quoi, c'est une interprétation scientiste du surhomme? Non, ça, ce serait bête de me faire dire ça. Je prends biologie moléculaire comme précisément, quoi? Pas simplement une science, ni même un savoir, mais comme entraînant une toute nouvelle évaluation de la vie. Que ça implique une science, ça ne se réduit pas à une science. Qu'est-ce que ça implique, en effet? Je dirais, eh ben, c'est vraiment la découverte de ce qu'on peut appeler un code génétique. La découverte de code génétique, c'est quoi? C'est un saut hors de la biologie, ça décroche de la biologie. De même que l'être brut du langage, sauter hors des désignations, significations, le code génétique et les composantes de chaînes génétiques décrochent d'avec le problème de l'organisation, avec le problème de l'organisme. C'est une biologie, encore une fois, moléculaire. Mais c'est aussi, encore une fois, une toute autre évaluation de la forme de la vie. La vie se rassemble en là, en une, comment dire, en un être brut de la vie, qui sont faites par les chaînes du code, et qui bien plus aussi ne peuvent pas être dits, de même qu'il ne s'agissait pas de constituants du langage et du phonème, c'est pas des constituants de la vie, du type cellule ou même microcellule. C'est vraiment un dehors de la vie. C'est la vie qui découvre son dehors. Et vous me direz, je peux le comprendre scientifiquement si je suis biologiste, mais je peux le comprendre d'une autre manière. Et quel est le... En quoi, là, il y a bien un être brut de la vie? c'est que, notamment, tous les schémas d'évolution sont changés ou sont en train de changer. Un des schémas profonds de l'évolution au 19e siècle, c'est quoi? C'est essentiellement l'évolution qui va du moins différencié au plus différencié. Vous savez que la biologie moléculaire envisage des schémas d'évolution d'une toute autre nature, à savoir qui vont d'une ligne différenciée à une autre ligne non moins différenciée, ou bien des schémas d'évolution qui vont d'une ligne plus différenciée à une ligne moins différenciée, c'est-à-dire des évolutions collatérales, ce qui est formidable, ce qui serait inintelligible pour le 19e, des évolutions collatérales ou même des évolutions rétrogrades. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est tout le courant des expériences actuellement dont on dépendra tous, à savoir les expériences où l'évolution trouve un agent privilégié, un destin singulier dans le virus. À savoir, un virus qui peut emporter un fragment de code dans des lignées ayant un tout autre code. Par exemple, un fragment de code de babouin va être emporté dans la chaîne génétique du code de chat. Ce qui fait dire à Jacob, par exemple, ça c'est le type d'évolution collatérale, par l'intermédiaire d'un virus qui n'est pas un traducteur. C'est essentiel. Le virus ne traduit pas un fragment de code dans un autre code. Il fait bien mieux, le virus. Si c'était une traduction, ce serait encore de la vieille biologie. Il fait une capture de code d'un autre code dans un code donné. Là, alors, on voit apparaître l'idée, la vague idée d'une espèce d'être brut de la vie. Non, c'est ce qui fait dire à Jacob, dans la logique du vivant, que c'est la manière moderne de reconstituer, je cite là par cœur, les amours abominables chères au Moyen Âge, l'homme et le babouin, le lapin et je sais pas, hein. Bon. Mais l'exemple qui me paraît toujours le plus beau, la guêpe et l'ortie. Dieu que ces deux créatures n'ont rien à voir. Et comment l'une capture un fragment de code de l'autre. Donc ça va du végétal à l'animal, de l'animal au végétal, etc. C'est là où je verrais une espèce d'équivalent d'un être brut de la vie, avec comme savoir correspondant la biologie moléculaire. Et de même qu'il faut, pour qu'elle se rassemble ainsi, que la vie décroche d'avec la biologie et saute dans un autre élément. Parce qu'il faut qu'elle saute dans quelque chose qui quitte la biologie moléculaire. Et je dirais la même chose pour le travail, pour aller très vite. Un être du travail, un être brut du travail, nous savons tous aujourd'hui ce que c'est. On sait tout ce que c'est, ben oui, c'est les machines dites de troisième espèce. À l'âge classique, à l'âge de Dieu, correspondait quoi? Les machines simples, facile, là j'ai honte même de ce que je dis, à l'âge classique correspondaient les machines simples et les mécanismes d'horlogerie. C'étaient les outils de Dieu, c'étaient les machines de Dieu. Dieu est éprouvé par le mouvement d'horlogerie. J'exagère. Enfin, ça fait rien. Vous corrigez de vous-même. Bien. L'âge humaniste a été l'âge de la finitude avec les machines énergétiques du type la machine à vapeur. Les forces dans l'homme se replient sur les forces du dehors qui sont les forces de finitude. C'est le grand âge de la thermodynamique. Les machines de troisième espèce, qu'est-ce qu'elles font? C'est les machines cybernétiques et les machines informatiques. Si peu que vous sachiez, moi aussi, sur ces machines, Est-il exagéré de dire oui? C'est la préfiguration d'un être brut du travail. C'est le vecteur dans lequel le travail se trouve confronté avec son propre dehors. Bien. Et ça implique un décrochage. Ça implique un décrochage par rapport à l'économie et par rapport au travail humain. Exactement comme la biologie moléculaire implique un décrochage par rapport à la biologie. Exactement comme la littérature moderne, au sens de Foucault, implique un décrochage par rapport à la linguistique. Et je vous disais, vous trouverez alors le même schéma au niveau de ma triple racine, toujours. Vous trouverez revanche de la littérature contre la linguistique, mais également revanche du code génétique contre les organismes. Grande revanche des virus, le surhomme et ses virus. C'est pas tant ça. Il y a de bons virus. Le problème, c'est domestiquer les virus. Et puis, revanche du silicium sur le carbone. Revanche du silicium sur le carbone, bon, ah oui. Le travailleur humain est à base de carbone, comme son organisme. Les machines de troisième espèce. Je vous disais, en effet, c'est un problème, j'aime beaucoup ce problème. Peut-être aussi, là, qu'on aura le temps de revenir là-dessus, c'est un problème passionnant. Pourquoi la vie est-elle passée par le carbone? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi pas le silicium qui avait des propriétés merveilleuses? Bon, on nous dit le silicium, ça pouvait pas marcher, tout ça, ça pouvait pas. Pourtant, il y avait des avantages, une vie garantie sur silicium, indexée sur le silicium, c'était une merveille, mais c'était pas stable. Bon, voilà ce qu'on nous dit. N'empêche que le silicium trouve sa stabilité au niveau des machines de troisième espèce. Bien. Revanche du silicium sur le carbone, c'est peut-être la plus importante des revanches. C'est pour ça que je tiens tellement à ma triple racine. Alors, quoi? Je dirais le surhomme, c'est pas compliqué. Bien. C'est celui qui affronte cette triple racine nouvelle. C'est celui qui affronte cette triple nouvelle force. La force des agrammaticaux, dans l'être rassemblé du langage. La force des gènes, la force des chaînes génétiques dans l'être rassemblé de la vie. La force du silicium. La force rassemblée du truc, là, du travail. Et qu'est-ce que ça veut dire? J'ajoute pour en finir. Puisque tout ça, ça devient si pas bien. Ma seule question, c'est, si vague que ce soit, est-ce que ça autorise l'annonce d'une nouvelle forme? Oui. En effet, les forces dans l'homme entrent en rapport avec de nouvelles forces. Les forces dans l'homme entrent en rapport avec de nouvelles forces. Ces forces ne sont plus celles ni de la finitude, ni de l'élévation à l'infini. Faute de mieux, je vous proposais d'appeler ça les forces du fini illimité. Les forces du fini illimité se définiraient ainsi, ou se caractériseraient ainsi, une situation, chaque fois qu'il y a une situation de force où un nombre fini de composants donne un nombre illimité de combinaisons. Ne pas croire que ça veut dire que tout dépend d'une combinatoire, c'est la combinatoire qui est un cas spécial de ça, de cette situation de force. Et quelle serait l'opération fondamentale de cet affrontement des forces dans l'homme avec ces nouvelles forces? dans le silicium est un même. Je vous disais, eh ben, servons-nous d'un mot, puisqu'on avait dépli et pli, ne résistons pas, appelons ça le surplis. Et le surplis, ce serait quoi? Ce serait un pli très spécial, que l'âge du 19e siècle ne pouvait pas prévoir, qui est exactement le pli sur le dehors. Le pli sur cette ligne du dehors dont on vient de parler, là, de reparler aujourd'hui et qu'on n'a pas encore vraiment attaqué. Et le surpli, je le verrais comment? Eh bien, ce serait cette opération qu'on a vue la dernière fois sur le langage, lorsque notamment j'invoquais les termes mêmes de Burroughs dans ses méthodes de surpliage, le surpliage opéré sur le langage. C'est le problème fondamental des chaînes dans le code génétique qui est un problème de foi. Comment se plissent-elles et comment se replissent-elles? Qu'est-ce qui fait qu'une chaîne se plisse à tel moment? Vous n'avez pas un livre même de vulgarisation sur le code génétique. La formule dans ce domaine de la biologie moléculaire, Le cas typique du surplis, de ce qu'on appelle le surplis, c'est la double hélice. C'est la double hélice de Watson qui a été à la base, qui a été les bases de la biologie moléculaire. Et déjà depuis Watson, et ça fait pas très longtemps, depuis Watson, ça s'est développé tout ça, tous ces problèmes de pliage, de surpliage de la chaîne, puisque tout dépend précisément de ces pliages.